Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral Digne. Aujourd'hui, une émission avec Julie Marie qui est chargée de mission Natura 2000 Biodiversité. Bonjour Julie Marie.
Bonjour Odile.
Vous allez nous présenter un peu votre travail, en quoi ça consiste, puisque ça fait déjà, vous m'aviez dit, depuis 6 ans que vous travaillez pour le Parc du Verdon en fait.
Oui c'est ça, ça fait 6 ans que je travaille au Parc du Verdon sur la mission du coup Natura 2000 sur le plateau de Valensole. Donc moi je suis animatrice Natura 2000, donc c'est moi qui gère le site, qui l'anime. Et donc, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est qu'un site Natura 2000, parce que ça, oui, souvent, ça ne parle pas toujours aux gens. Le réseau Natura 2000, c'est un réseau européen qui vise à protéger des espaces et des espèces qui sont vulnérables, en danger ou qui sont vraiment très spécifiques d'un endroit. Et en général, quand on a des endroits qui ont du coup ces espèces-là ou ces habitats qui sont protégés, vulnérables ou en danger, on va pouvoir classer le secteur dans ce qu'on appelle un site Natura 2000. Et du coup, on va pouvoir derrière mener des actions. Donc ce réseau européen, il est composé donc de 30 000 sites à l'échelle de l'Europe, donc répartis sur 27 pays. Et pour vous donner un ordre d'idée, en région PACA, on est sur 114 sites terrestres et 13 sites marins. Et donc, du coup, le but, c'est de pouvoir justement protéger les espèces et valoriser les territoires. Et donc, pour ça, on va avoir plusieurs missions qui vont être de faire des inventaires de la faune et de la flore. Donc ça, c'est moi qui m'en occupe sur le plateau de Valensole. Donc on va faire des suivis selon les périodes, que ce soit sur des chouettes, sur des chauves-souris, sur des oiseaux. Et après, on va aussi du coup communiquer auprès du grand public. Donc comme aujourd'hui, par exemple, à la radio, mais on peut aussi faire des animations, on peut faire des articles. Et après, on intervient aussi dans les écoles. On sensibilise aussi les élus pour prendre en compte les enjeux du territoire dans leur politique locale. Et on va aussi derrière sensibiliser tous les acteurs qui sont des parties prenantes du territoire. Donc moi, par exemple, sur le plateau de Valensole, je travaille beaucoup avec les agriculteurs pour les accompagner, pour pouvoir répondre à leurs questions et essayer qu'ensemble, on aille vers une agriculture plus durable, plus résiliente et qui puisse aussi être bénéfique du coup aux espèces qui sont présentes. Donc là, on va mettre en place des contrats pour la préservation des oiseaux, pour replanter pour les chauves-souris. On va pouvoir mener différentes actions. Et on a un dernier volet qui va plutôt être ce qu'on appelle les évaluations d'incidence. C'est des mini-études d'impact où, en fait, moi, je vais accompagner les porteurs de projets pour vérifier, pour les accompagner, pour réduire, en fait, les impacts des activités humaines sur les espèces et les milieux. Donc, ils vont m'expliquer leurs projets de la phase travaux jusqu'à la phase vraiment d'exploitation du projet. Donc on va prendre en compte, par exemple, pour la construction d'une centrale photovoltaïque, tout l'aspect construction, raccordement des réseaux électriques, et aussi derrière les phases d'entretien, que ce soit par exemple le désherbage ou des choses comme ça. Donc on va vraiment essayer d'accompagner les gens du début à la fin de leur projet pour essayer d'améliorer en fait et de limiter les impacts de leur projet sur les espèces qui sont présentes.
Eh bien, ça fait de sacrées missions tout ça, ça fait un travail assez diversifié, on peut dire. Vous arrivez à tout gérer.
C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à faire. Donc moi j'ai la chance d'être sur un temps plein, donc je passe vraiment tout mon temps de travail sur le plateau de Valensole pour essayer de mener à bien mes missions. Et après, du coup, je suis aussi accompagnée. Déjà, la façon de fonctionner, c'est qu'on a ce qu'on appelle un comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, on va avoir les élus, du coup, des 15 communes du plateau de Valensole qui sont dans la zone Natura 2000 qui seront présents. Et on va aussi avoir, du coup, des représentants de toutes les activités humaines qu'il va y avoir sur le plateau de Valensole. Donc, on va avoir des représentants de la chasse, on va avoir des représentants du monde agricole, on va avoir des représentants d'associations naturalistes. Et en fait, tous ensemble, au vu des enjeux, chaque année, on va se réunir. On va faire un bilan de ce qui a été fait pendant un an. Et on va discuter après des enjeux pour l'année à venir. Donc, on fait ça tous les ans et on essaye de prioriser les enjeux, de prioriser les actions qu'on va pouvoir mener et aussi quels partenariats on va pouvoir travailler. Donc, on va pouvoir aussi mener des actions avec des partenaires. Là, par exemple, récemment, on a travaillé avec la Fédération des chasseurs pour la mise en place de panneaux de sensibilisation en fait dans certaines cultures qui sont mises en repos en fait pour la reproduction d'un oiseau qui s'appelle l'outarde canepetière, qui est un oiseau qu'on dit stépique, qui est présent en fait dans nos grandes cultures, qui se reproduit.
Stépique, ça veut dire quoi?
Oui, pardon. En fait, stépique, c'est qui vient du mot de la steppe. Et la steppe, c'est un habitat particulier qu'on retrouve en France que dans la Croix. Donc, c'est un habitat qui est herbacé. Il y a très peu d'arbres, un milieu très sec qui n'est pas du tout irrigué. Donc, c'est ce qu'on appelle la Croix sèche. En fait, comme il n'y a que la Croix qui a cet habitat en France, l'outarde a trouvé comme habitat de substitution les grandes cultures sèches qu'on peut avoir notamment sur le plateau de Valensole. Donc en fait, elle va se reproduire dans des champs de sainfoin, dans des champs de luzerne ou même dans des champs de blé. Elle fait pas vraiment un nid, elle prend une dépression qu'il va y avoir dans le champ, elle va faire ses œufs, donc elle fait 4 œufs, et du coup, elle va les couver en plein milieu du champ. Et le souci qu'on a, c'est que les récoltes se font de plus en plus tôt. Et les récoltes se font au moment en fait où les femelles soit couvent ou soit les jeunes ne sont pas encore très volants et ne peuvent pas encore vraiment se déplacer. Et donc on peut avoir un risque du coup de destruction des pontes ou des individus. Et donc là on travaille en fait avec les agriculteurs pour mettre en place des mesures, donc ce qu'on appelle des mesures agro-environnementales et climatiques. Donc c'est des mesures qui sont en lien avec la PAC, la politique agricole commune, qui sont des contrats de 5 ans. Où du coup les agriculteurs s'engagent à mettre un couvert qui est réputé favorable à l'espèce, donc par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, un sainfoin ou une luzerne, et ils vont en fait faire aucun travail agricole sur la période de reproduction de l'outarde. Donc ça, moi je travaille avec eux pour mettre en place ces contrats-là, et derrière ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens n'étaient pas forcément au courant que cette parcelle, elle était quelque part mise en défense pour cette espèce-là, et donc on se rendait compte que y a des personnes qui venaient, qui promenaient leurs chiens sans laisse, et donc les chiens, ils peuvent derrière aller embêter la femelle qui va sûrement quitter le nid, et derrière les œufs peuvent se faire prédater. Ou sinon, il y en a qui vont venir avec des motos, des quads, ou sinon, il y en a qui vont survoler les parcelles en drone. Et donc, tout ça, ça va créer du dérangement à l'espèce, alors qu'on travaille avec les agriculteurs pour justement leur permettre de se reproduire. Et donc là, on a travaillé avec la Fédération des chasseurs pour faire des panneaux de sensibilisation qu'on a installés, en fait, aux abords du coup, des cultures concernées, pour que le grand public, quand il passe, il puisse comprendre en fait quelle mesure a été mise en place, pourquoi on le fait et quel geste à adopter par rapport à ces parcelles-là, notamment de ne pas rentrer dans la parcelle, de ne pas laisser son chien divaguer, etc. Et donc, toutes ces missions qui paraissent assez complexes et très riches, il y a des fois où du coup, je m'appuie aussi sur des acteurs locaux qui peuvent venir m'épauler, soit par leurs compétences, leur réseau ou leur financement. Et donc, on travaille comme ça. Je ne suis pas toute seule, finalement, pour travailler sur cette mission, quoi.
Donc, vous êtes embauchée par le parc du Verdon ?
Oui, c'est ça.
C'est votre structure, voilà.
C'est le parc naturel régional du Verdon. Donc, en fait, les sites de Natura 2000, ils peuvent être animés par différents types de structures qui peuvent être soit des syndicats mixtes, donc comme le parc naturel régional du Verdon. Ça peut être aussi des syndicats de rivières ou des collectivités, des agglomérations, par exemple. Moi, je suis hébergée par le parc naturel régional du Verdon. Un parc naturel régional, je ne sais pas si vous savez trop ce que c'est.
On ne sait pas trop, non. Si vous pouvez nous éclairer.
Souvent, les gens, ils ne font pas la distinction entre un parc national et un parc naturel régional. Donc, ça n'a pas du tout la même portée. Un parc national est créateur de lois, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider sur son territoire d'interdire, par exemple, certaines activités, ce qui n'est pas le cas sur un parc naturel régional. Un parc naturel régional, c'est un outil du coup régional qui vise à essayer d'innover sur son territoire, de préserver son territoire, que ce soit aussi bien d'un point de vue de l'environnement, de la biodiversité. Donc c'est là où moi je m'insère et là, dans ces missions-là que je travaille. Mais on va aussi avoir une préservation de la culture, du patrimoine bâti. Et donc on va pouvoir travailler sur différents types de missions pour essayer justement de faire en sorte que le territoire reste résilient, innovant et qui est toujours de l'activité humaine sur du long terme. Donc un parc naturel régional, c'est dirigé par des élus. Donc là, on a renouvelé notre charte. Donc c'est un document qui a été établi en discussion avec les habitants du territoire, avec les élus, avec les différentes activités qu'il peut y avoir sur le territoire. On a établi du coup pour chaque grand enjeu, que ce soit la biodiversité, la gestion de l'eau, l'agriculture, la culture, des lignes directrices pour les 15 prochaines années à venir. Et du coup, les élus ont dû se positionner l'année dernière pour dire s'ils acceptaient cette feuille de route et si du coup, ils intégraient le parc naturel régional du Verdon. Donc là, depuis avril 2025, on a donc 54 communes qui ont signé la charte et qui du coup sont intégrées dans le périmètre du parc naturel régional du Verdon et qui du coup vont suivre cette ligne directrice sur les différents aspects.
Ça veut dire que ce sont des communes qui sont engagées pour la biodiversité ?
Oui, mais pas que. On a souvent tendance à résumer en fait et à réduire un parc naturel régional sur les aspects vraiment biodiversité, bien que finalement, toutes nos activités s'appuient sur un environnement qu'on connaît. L'aspect touristique du parc du Verdon, qui est lié à son lac, en fait, c'est que la beauté des paysages fait aussi partie du coup d'une certaine biodiversité et d'un certain environnement qu'on doit garder de façon qualitative. Mais on s'engage aussi sur... Enfin, ils se sont engagés aussi sur des aspects, voilà, vers quelle agriculture on veut se tourner, sur le développement des énergies renouvelables, sur la protection du patrimoine bâti, sur la culture, l'éducation. Donc en fait, les activités du parc, elles ne sont pas que sur la biodiversité.
En ce moment, vous travaillez sur Valensole, sur le plateau de Valensole. Ça ne fait pas 6 ans que vous êtes que vous travaillez sur le plateau de Valensole.
Si. Ça fait 6 ans que je suis embauchée par le parc et moi, je m'occupe vraiment que du plateau de Valensole sur la zone Natura 2000.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce plateau de Valensole de particulier ?
Alors, il n'y a pas que observer les lavandes.
Ah ouais.
Il y a une biodiversité qui est très, très riche. Si on parle juste d'un point de vue Natura 2000... Donc, qui est par rapport aux directives oiseaux et directives habitat, qui a fait une liste d'espèces dites d'intérêt communautaire. Et ben du coup, sur le plateau de Valensole, on a 102 espèces et 22 habitats d'intérêt communautaire, donc reconnus à l'échelle européenne comme étant en danger, vulnérable ou spécifique d'un endroit. Pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 100 espèces d'oiseaux différents sur le plateau de Valensole. Donc, d'un point de vue biodiversité, pour les amateurs de nature, il y a quand même une richesse qui est assez importante et qui recoupe finalement un peu tous les milieux qu'on peut avoir autour de chez nous. Parce que le plateau de Valensole, il a une influence méditerranéenne, mais qui, quand on commence à monter vers Saint-Jurs, par exemple, on commence à avoir du coup un milieu qui va plutôt être pré-montagneux et du coup qui va permettre aussi d'avoir une diversité aussi d'espèces. Donc le plateau de Valensole, on va avoir beaucoup d'espèces qui sont liées au milieu agricole. Donc souvent des oiseaux de plaine qu'on va pouvoir reconnaître. On a beaucoup de rapaces, des busards, on a des faucons cresserelles qu'on peut assez facilement reconnaître. Et puis après, on va avoir aussi toute une faune qui va plutôt être liée aux forêts. Parce qu'en fait, tous les vallons du plateau de Valensole sont très forestiers et on va permettre aussi d'avoir une biodiversité liée à ces milieux-là, avec des espèces comme la barbastelle, qui est une chauve-souris vraiment spécifique des milieux forestiers, qui a besoin d'arbres matures, anciens, où elles vont pouvoir se cacher derrière des décollements d'écorce, par exemple. Donc tous les vieux arbres, il ne faut pas forcément les abattre. Finalement, ils sont source aussi d'une biodiversité très particulière.
Tout est utile. Alors, même un vieil arbre mort, il n'est pas là que pour faire l'exception dans le paysage. C'est aussi utile pour des espèces.
C'est ça. Et donc, pareil, on travaille aussi avec le monde forestier pour laisser des vieux arbres. On travaille aussi, du coup, avec les propriétaires forestiers pour les sensibiliser à cette beauté qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Souvent, quand je rencontre des propriétaires, ils me disent qu'ils veulent tout nettoyer, qu'ils veulent tout faire propre. Et donc un arbre mort, bah faut le couper. Et derrière, finalement, quand on leur parle que cet arbre mort, il héberge des insectes, il héberge des chauves-souris, il héberge en fait toute une faune qui est vraiment spécifique de ces endroits-là et qui tend à disparaître parce qu'on a effectivement cette tendance à vouloir retirer tout ce qui est mort et tout ce qui nous semble un peu moche quelque part. Et on a cette même problématique de la beauté qu'on va avoir par exemple dans les champs de lavandin. Donc, sur le plateau de Valensole, c'est quand même très connu pour ça. Il y a une forte activité touristique qui est liée aux lavandes. Et il y a ce côté un peu instagrammable où on veut absolument avoir un champ de lavande qui soit nickel, qui n'ait pas une seule herbe qui dépasse, etc. Et on a du mal quand même à faire comprendre aux gens que souvent, ces champs-là, du coup, ils ont moins de biodiversité dans leur champ qu'un champ qui, du coup, va avoir des enterrants qui vont être enherbés, qui vont plutôt... On va avoir l'impression qu'ils sont un peu laissés à l'abandon. Alors qu'en final, ils sont source de vie bien plus que ceux qui sont totalement désherbés. Et donc, c'est travailler sur cette notion aussi du beau, de l'acceptable et de faire voir qu'il y a, d'autres choses à voir, en fait, sur le plateau de Valensole, quoi.
Et alors, mis à part l'effet du beau, comme vous dites si bien, pour celui qui ramasse les lavandins, le fait qu'il y ait des herbes folles au milieu, c'est gênant, non ? Pour récupérer les fleurs.
Ça va dépendre un peu de quelles herbes folles et comment c'est géré. Alors, c'est sûr que passer de pas du tout d'enherbement à tout de suite beaucoup d'enherbement, c'est pas forcément facile. Donc, il y en a qui mettent en place des techniques différentes. Et donc, on travaille là-dessus. J'ai une collègue au parc, notamment, qui anime le projet qui s'appelle Regain, qui est un partenariat avec la Chambre d'agriculture du 04, la Société du Canal de Provence et le parc, où en fait on accompagne les agriculteurs justement pour essayer d'aller vers des pratiques du coup plus résilientes, plus durables, et on fait justement des essais d'enherbement. Donc il y en a qui font, chacun y va un peu à son rythme et selon ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Donc il y en a qui font des enherbements qui sont uniquement hivernaux. Donc arrivé au printemps, il le retire pour éviter la compétition hydrique en fait avec les pieds de lavandin. Mais malgré tout, ça a permis pendant plusieurs mois d'éviter l'érosion des sols. Ça a permis aussi de fertiliser finalement l'interrang et ça évite de mettre des engrais derrière. Et après, on en a qui sont passés sur de l'enherbement permanent. Donc eux, ils ont une gestion de leur interrang pour que ça ne devienne pas effectivement une forêt vierge, on va dire. Donc il y en a qui vont le faire pâturer par des moutons, par exemple. Ou sinon, on a un agriculteur sur Valensole qui a créé sa propre machine où il va avoir en fait des rouleaux qui vont passer dans l'interrang pour coucher l'herbe. Donc il ne va pas la faucher, il va juste la coucher de façon à ce qu'effectivement elle ne pousse pas trop. Et il va désherber vraiment qu'au pied des lavandins pour faire en sorte qu'au moment de la récolte, il n'y ait pas d'adventice qui soit présent sur le rang. Par contre, ça ne pose pas de problème au niveau de la récolte si c'est dans l'interrang. Donc c'est des termes un peu techniques, mais en fait, voilà, on travaille avec eux pour aussi continuer à innover, à expérimenter beaucoup et essayer aussi de répondre à leurs inquiétudes, justement, que ce soit d'un point de vue technique ou économique.
Alors justement, comment vous êtes perçu par ces agriculteurs ? Au départ, j'imagine que celui qui a toujours travaillé d'une certaine façon, c'est difficile de remettre en cause sa façon de travailler depuis des générations, peut-être ?
Bah, je dirais qu'il y a un peu de tout. Ils sont quand même le reflet de la société. Il y a des gens qui sont déjà convaincus, engagés, qui n'ont pas attendu qu'on vienne les voir pour expérimenter des choses. Il y en a qui sont ouverts, curieux, qui ont envie d'expérimenter. Il y en a qui sont ouverts, mais ils vont d'abord regarder si ça marche chez les voisins avant de commencer à le faire chez eux. Et il y en a, on nous ferme la porte directement. Après, c'est que voilà, selon avec qui on travaille, on va justement pouvoir aussi adapter notre discours. Et puis, c'est vrai que ça permet aussi, même s'il y en a qui sont un peu plus pionniers, on va travailler avec eux, on va expérimenter chez eux. Et derrière, on va aussi pouvoir montrer aux autres que ça marche ou que ça marche pas, pourquoi ça a pas marché, comment on peut améliorer les choses. Et même entre eux, ils discutent, hein. Que ce soit au moment de la distillation, par exemple, du lavandin, tout le monde est regroupé en coopérative. Donc, en fait, c'est plusieurs agriculteurs qui sont au sein de la même coopérative. Et à la fin, c'est un peu de regarder qui a fait le plus de rendement selon les pratiques qui ont été mises en place. Et c'est là où, des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent, alors que de prime abord, on se serait dit que la personne, elle allait droit dans le mur. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas toujours bien vu au début. Mais petit à petit, quand même, on commence à travailler avec beaucoup de personnes et ça permet derrière aussi de pouvoir discuter avec d'autres qui vont pouvoir expérimenter. Je vois par exemple, moi d'un point de vue avec une entrée très biodiversité, quand je discute avec certains agriculteurs, par exemple, pour mettre en place les mesures agro-environnementales et climatiques sur l'outarde dont je parlais tout à l'heure, donc au début, c'est sûr qu'il y a un aspect aussi économique, c'est-à-dire qu'on fait un contrat, ils savent que pendant 5 ans, ils doivent répondre à ce cahier des charges-là, ils ont une indemnisation, et ça permet aussi de pouvoir un peu voir venir l'avenir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les cours qui n'arrêtent pas de changer, c'est un peu compliqué pour eux. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine sécurité financière. Donc on commence avec cette entrée-là. Il y en a qui sont convaincus qu'ils le font plus pour la biodiversité, il y en a, c'est aussi un contrat comme un autre, financier quelque part. Mais derrière, on fait des formations, on discute, on les sensibilise, on leur apprend à connaître déjà ce que c'est qu'une outarde, là pour le coup pour les MAE. Mais derrière, on va pouvoir aussi discuter de la plantation de haies, on va pouvoir discuter aussi mais quelles pratiques ils ont. Moi, je vais pouvoir faire le lien avec ma collègue, du coup, Lucine Ruff, qui anime le réseau Regain pour le parc. Et derrière, on va pouvoir aussi justement les questionner sur leurs pratiques, voir s'ils ont envie d'expérimenter des choses, comment on peut les accompagner, comment on peut répondre à leurs questions. Et derrière, on anime aussi, du coup, par le biais de ce réseau Regain, des journées de formation technique où on va, du coup, inviter des spécialistes pour répondre à leurs questions, montrer ce qui existe. On va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle des tours de plaine. Donc là, on va aller de parcelle en parcelle avec les différents agriculteurs pour voir ce que d'autres ont mis en place, quelles sont les lacunes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment ils ont fait, quelles contraintes techniques ils ont eues. Et du coup, ça permet aussi derrière de pouvoir titiller un peu les envies innovantes des agriculteurs et voir ce qui est faisable en fait.
J'ai envie de revenir sur l'outarde là. Je viens de regarder à quoi ça ressemble. Vous parliez de panneaux pour les protéger et effectivement, est-ce que c'est pas un animal qui peut être chassé par les chasseurs?
L'outarde, elle a été chassée et chassable il y a plusieurs années. Par contre, en fait, elle a vu ses populations diminuer de quasiment 90% en l'espace de 40 ans, notamment en lien en fait, avec l'intensification des pratiques agricoles. Et le fait que ces populations ont énormément chuté, aujourd'hui, c'est une espèce protégée qui n'est plus chassable et qui fait l'objet de ce qu'on appelle un plan national d'action. Donc, c'est-à-dire qu'à l'échelle nationale, toutes les personnes qui travaillent sur l'outarde ont un peu une feuille de route pour les 5 ou 10 ans à venir pour essayer justement de restaurer les populations. Donc aujourd'hui, quand je travaille avec la Fédération des chasseurs du 04, c'est aussi parce que ça a été une espèce chassable, même si elle ne l'est plus aujourd'hui, et qu'en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une espèce parapluie. Une espèce parapluie, en fait, c'est quand, au nom de cette espèce-là qu'on va sauver, on va pouvoir sauver derrière toutes les espèces qui ont le même habitat ou la même façon de fonctionner. Donc c'est-à-dire que quand on va protéger l'outarde, qu'on va mettre en place ces cahiers des charges avec les agriculteurs. Dans ces mêmes parcelles, on va avoir aussi de la caille qui est chassée, on va avoir du lièvre qui est chassé, on va avoir des biches qui vont pouvoir aussi mettre leur fang au monde dans ces parcelles-là. Et donc, en fait, on va avoir toute une biodiversité qui peut être protégée, commune ou chassable, qui va pouvoir se reproduire dans ces milieux. Donc, en fait, même si l'outarde en tant que telle n'est plus chassée, le fait de la protéger, ça peut quand même intéresser les chasseurs d'un point de vue juste espèce chassable, parce que ça, finalement, ça remet aussi des milieux qui sont intéressants pour les espèces qui veulent chasser. Après, les chasseurs, ils sont pas que là pour sauver ce qui est chassable, même si on a tendance à penser ça. Et du coup, ils sont quand même sensibilisés sur la question de l'outarde et des autres espèces. Ils ont tout intérêt aussi à ce que les milieux se portent bien pour que les espèces se portent bien.
Il y a une évolution dans la chasse comme dans la pêche. Hein. Je crois qu'il y a quand même pas mal de sensibilisation qui est faite, puisque la société de pêche fait aussi pour la protection du milieu aquatique. Enfin...
Oui, bah, je pense que malgré tout le monde évolue dans ce sens-là. Et moi, je trouve ça intéressant aussi avec du coup, l'entrée Natura 2000 et l'entrée du parc. C'est qu'on n'est pas du tout fermé à travailler avec différents acteurs, donc que ce soit le monde de la chasse ou que ce soit le monde de la pêche, de l'agriculture ou avec des associations militantes sur l'environnement. Et c'est aussi du coup la force, je trouve, du parc de réussir à mettre toutes ces personnes-là autour d'une table pour travailler ensemble sur des thématiques particulières. Et moi, je trouve ça, d'un point de vue personnel en tout cas et professionnel, du coup très enrichissant de réussir à travailler avec toute cette diversité qui nous compose en fait et de pouvoir réussir à trouver des compromis pour aller vers un environnement plus résilient et plus durable en tout cas.
Julie-Marie, merci. On va revenir sur votre travail à Valensol, donc sur ce plateau de Valensol. Bientôt, vous allez faire une conférence sur la chauve-souris et vous me parliez aussi de restauration de pigeonniers à Valensol, si vous avez envie d'en dire deux mots.
Oui, merci. Effectivement, le 22 août, vendredi 22 août à Valensole, à partir de 18h30, je vais proposer en fait une conférence sur les chauves-souris et une animation pour toute la soirée. Donc on a nommé ça le Bat Friday avec du coup la commune de Valensole. Et cette idée, elle vient du fait qu'on a travaillé avec la commune pour la restauration du cabanon pigeonnier du Pré Saint-Pierre, qui est un cabanon communal, qui avait un peu été laissé à l'abandon. Donc le toit n'était plus en très bon état, le cabanon commençait à prendre l'eau et il y avait des risques vraiment de dégradation. Et du coup, la commune de Valensole a contacté notamment le parc pour les accompagner pour la restauration de ce cabanon d'un point de vue patrimoine bâti et d'un point de vue patrimoine naturel, puisque dans ce cabanon, le fait qu'il avait été un peu laissé à l'abandon, une colonie de chauves-souris qui s'appelle le petit rhinolophe s'était installée. Et donc, tous les étés, il y avait des femelles qui se retrouvaient dans ce cabanon-là pour mettre au monde leurs petits. Et donc, on a travaillé avec la commune pour restaurer le cabanon avec des techniques traditionnelles, notamment avec des enduits à la chaux, pour justement garder en fait les particularités culturelles du coup de ce cabanon. Et on a aussi adapté le calendrier des travaux pour permettre de ne pas déranger les chauves-souris, qu'elles puissent revenir pour pouvoir se reproduire l'année d'après. Et on a aussi travaillé pour améliorer les conditions de vie des chauves-souris dans le cabanon en assombrissant un peu le bâtiment, etc. Et on a laissé un espace qui va faire l'objet de travaux dans un second temps de valorisation, donc pour justement servir en fait de lieu de pédagogie, que ce soit pour les écoles ou que ce soit pour les guides de pays, s'ils voudront venir pour parler des chauves-souris. À savoir que du coup, donc, les chauves-souris, c'est des espèces en fait qui sont très fascinantes, je trouve, présentes du coup sur notre territoire. Il y a 36 espèces de chauves-souris au niveau national. Nous, on en a plus d'une vingtaine qui sont présentes chez nous. Donc, on va en avoir qui sont présentes dans les bâtiments, mais on va en avoir comme la barbastelle dont je parlais tout à l'heure, qui est présente vraiment dans les forêts anciennes. Et toutes ces espèces-là, elles vivent dans la diversité des milieux qu'on va avoir pour se partager un peu les espaces. Et donc, le petit rhinolophe, c'est l'espèce qui est, je pense, la plus connue de la part des habitants du territoire, puisque c'est celle qui est suspendue au plafond, qui ressemble à une petite poire noire qui va être suspendue, qu'on va retrouver dans les combles, dans les pigeonniers, dans les granges, et qui va être présente du coup l'été, pendant la période de reproduction. Et cette espèce-là, elle est vraiment liée au bâtiment. En fait, les femelles, elles ont besoin d'avoir une température qui soit à peu près de 25 degrés et qui soit la même le jour comme la nuit. Et selon les différents jours. Donc en fait, il n'y a que la pierre qui permet de pouvoir tamponner le fait qu'on peut avoir des journées à 40 degrés comme en ce moment, ou la nuit des fois qui peut chez nous être très fraîche. Et donc c'est pour ça qu'on la trouve vraiment dans des bâtiments. Et sur le plateau de Valensole, elle était très présente dans les cabanons, qui malheureusement en fait commencent souvent à être dégradés, à tomber à l'état de ruine. Et donc du coup, avec l'entrée du coup Natura 2000 notamment, je vais pouvoir accompagner les propriétaires, que ce soit communaux comme là, la commune de Valensole, ou des propriétaires privés, pour restaurer leur cabanon et permettre du coup le retour des chauves-souris dans ces espaces-là. Donc on va mettre des techniques en place particulières pour qu'elles puissent rentrer dans le bâtiment, qu'il soit assez sombre, que la température soit bonne pour que les petits puissent grandir. Et on va pouvoir du coup restaurer les bâtiments en respectant du coup les techniques traditionnelles et en permettant toujours de pouvoir accueillir la faune.
Alors j'ai envie de bêtement de demander en quoi c'est utile une chauve-souris.
Je dirais que du coup la
pourquoi
réponse...
Pourquoi il faut la protéger?
Je dirais que la réponse assez rapide et qui fait souvent mouche, c'est que donc, toutes les chauves-souris métropolitaines sont insectivores. Et on compte, donc une chauve-souris mange à peu près la moitié de son poids par nuit en insectes. Et donc, on considère qu'une chauve-souris mange l'équivalent de 3000 moustiques par nuit.
Alors oui, alors j'en veux chez moi.
Ben, il n'y a pas de souci.
Et ça se niche facilement, enfin, vous dites dans les vieilles maisons, au niveau de la pierre
Bah, du coup, on va avoir plusieurs espèces qui ne vont pas forcément être au même endroit dans nos maisons. Je dirais que celles qu'on voit assez facilement, c'est celles qu'on va avoir derrière les volets. Ça va être plutôt le groupe des pipistrelles. qui, elle, est un peu moins exigeante en termes d'environnement. Donc, le derrière d'un volet, ça lui va très bien. Et donc, si vous en avez derrière vos volets et que, par exemple, vous voulez fermer parce qu'il va faire chaud, je vous incite du coup à attendre la nuit parce que les chauves-souris, elles partent au moment du coucher du soleil pour aller chasser. Donc, vous attendez qu'elles soient parties et comme ça, vous fermez vos volets. Et quand elles vont revenir, elles vont trouver du coup un autre endroit. Si vous ouvrez en pleine journée, ça va vraiment beaucoup les déranger. Et après, pour ces espèces-là, on peut aussi mettre des nichoirs en façade qu'on peut trouver dans le commerce ou qu'on peut fabriquer. Et ça, ça va aider les pipistrelles, par exemple. Par contre, le petit rhinolophe, lui, il a vraiment besoin d'espace. Et donc là, on va plutôt l'avoir dans les combles, par exemple. Et donc là, ça demande des aménagements qui sont un peu différents. Et c'est pour ça que nous, on va accompagner techniquement les propriétaires privés pour faire en sorte qu'ils puissent accueillir d'autres espèces que les pipistrelles.
Est-ce que les gens du pays ont des anecdotes ou des croyances sur la chauve-souris? Est-ce qu'on en a peur encore de nos jours des chauves-souris?
De nos jours, oui. Alors pas tout le monde. Les gens du pays, il y en a beaucoup qui l'ont tellement toujours vue chez eux que bon, bah elle est là et elle fait partie du décor quelque part. Après, il y a des personnes qui effectivement en ont peur avec des mythes un peu qui se perpétuent et qui sont pas fondés. Le fait que les chauves-souris elles s'accrochent dans les cheveux, le fait que les chauves-souris elles sucent le sang, et tout ça en fait c'est pas vrai. Et c'est aussi pour ça que du coup on fait la conférence le 22 août. Pour répondre un peu aux questions des gens et leur dire que c'est pas le cas. Les chauves-souris, elles se déplacent avec ce qu'on appelle l'écholocation, qui est un peu le système des radars. Donc en fait, elles envoient des ondes et quand ça rebondit sur un objet, ça leur renvoie et elles arrivent à savoir en fait à quelle distance elles sont de cet objet. Et du coup, elles arrivent à détecter des fils qui sont plus fins que des cheveux. Donc en fait, elles savent très bien où on est, elles arrivent très bien à nous percevoir et elles n'ont aucun intérêt à s'approcher de nous. Donc elles ne vont pas venir dans les cheveux, elles ne vont pas venir se coller à nous. Elles ont vraiment plus peur de nous que nous d'elles. Donc là-dessus, c'est vraiment un mythe. Après, sur le fait que par exemple, elles vont sucer le sang, il faut savoir que du coup, sur les 1400 espèces qu'il y a dans le monde, il n'y en a que 3. Qui sucent le sang et elles sont toutes présentes du coup en Amérique du Sud et elles s'attaquent plutôt du coup au bétail. Donc nous en fait en France on n'a vraiment pas ces questions-là, elles s'attaquent qu'aux moustiques et aux papillons de nuit. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur de ces chauves-souris-là. Et après bah voilà, si les gens ils ont des questions, il ne faut pas hésiter du coup à nous contacter ou à venir du coup le 22 août à Valensol à 18h30 et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que les gens peuvent avoir sur les chauves-souris.
À quel lieu, à Valensol?
Du coup, on fera la conférence dans la salle de cinéma de Valensol.
D'accord.
Et après, du coup, la conférence, donc à 18h30, à 20h, on va faire un pique-nique devant le pigeonnier de Valensol, du coup, qui a été restauré, où on expliquera avec la commune, du coup, quels travaux ont été faits, pourquoi, comment, et vraiment expliquer le projet. Et à 21h, donc quand le soleil va se coucher, on va pouvoir observer le balai des chauves-souris devant le pigeonnier quand elles vont partir chasser. Et une fois qu'elles seront toutes parties chasser, pour les plus courageux et les plus nocturnes, à 22h, on diffusera un film qui s'appelle « Une vie de grand rhinolophe » qui a été du coup tourné par Tanguy Stockley, qui est un photographe, un vidéaste, et il est chiroptérologue, donc spécialiste des chauves-souris. Et il a tourné ce film qui du coup est aussi disponible sur YouTube et que j'invite tout le monde à voir. Donc il y a des très belles images de chauves-souris et il retrace la vie en fait d'une chauve-souris pour vraiment expliquer comment ça fonctionne, où c'est présent, pourquoi c'est là. Et du coup c'est un film qui est relativement court avec des très belles images et qui permet de façon très... très facile et très accessible de pouvoir comprendre finalement le fonctionnement d'une chauve-souris.
C'est passionnant tout ça. Merci Julie-Marie, donc animatrice chargée de mission à Natura 2000.
Je peux rajouter une petite info aussi par rapport au parc.
Oui.
Du coup, c'est que comme on a renouvelé notre charte, on va faire une fête qui est ouverte à tous les habitants le 5 octobre. Donc c'est un dimanche. Et du coup, sur cette journée-là, il y aura plein de sorties, d'animations qui seront proposées aussi pour montrer la richesse des actions du parc et la richesse du territoire. Et ce jour-là, notamment, moi, j'animerai un atelier pour construire des nichoirs à chauves-souris. Et mes collègues proposeront du coup pas mal d'interventions. Donc je vous invite à suivre en fait sur les réseaux sociaux du parc ou sur le site du parc le programme qui devrait sortir dans pas longtemps. Et vous invite à noter cette date-là pour venir, pour pouvoir nous rencontrer, pour poser vos questions. Et on se fera un plaisir de vous répondre.
C'était très, très bien de nous donner cette information. Puis j'espère que vous allez revenir.
Avec grand plaisir.
Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup à nous apprendre. D'où vous vient cette passion ? Ça a demandé quelques années d'études, j'imagine.
Oui, ben moi, ça vient depuis toute petite, où j'ai toujours été fascinée par la nature, par les animaux, etc. Et du coup, moi, j'ai fait 5 ans d'études après le bac. Donc j'ai fait une licence d'SVT, enfin sciences et vie de la terre. Et derrière, j'ai enchaîné avec un master gestion de la biodiversité à Marseille. Et donc j'ai commencé à mettre un pied dans la gestion, dans les espaces protégés, à sauvegarder. Et j'ai eu la chance, à la fin de mes études, de pouvoir être embauchée par le parc et de travailler du coup dans ce réseau Natura 2000, que je trouve qui est très riche et qui permet, avec la diversité des actions à mener, de pouvoir avoir aucune journée qui se ressemble. Je peux passer d'une classe de CE2 le lendemain avec des agriculteurs et derrière travailler avec des élus par la suite. Et je trouve que c'est très enrichissant et ça, moi, ça me rend vraiment heureuse, quoi.
Oui, sensibiliser les enfants par rapport à la sensibilisation des agriculteurs, ça doit être très différent. J'imagine qu'il y a un intérêt aussi, un enthousiasme de la part des enfants. Comment vous êtes perçue ?
En général, plutôt bien.
Ouais.
C'est vrai qu'on a quand même la chance, je pense, d'avoir des enfants qui ont quand même grandi dans un environnement encore préservé et qui est assez chouette. Donc souvent, il y a beaucoup d'enfants qui randonnent avec leurs parents, qui ont soit leurs parents qui sont agriculteurs ou qui ont de la famille ou des amis. Donc globalement, ils sont quand même assez ouverts, je trouve, à ces questions-là. Et ça permet du coup derrière avec les enseignants de pouvoir créer des projets de plusieurs interventions dans la classe de façon à ce que ce ne soit pas une seule intervention et qu'on puisse vraiment construire quelque chose avec les enfants et qu'ils puissent aussi derrière en parler à leur famille, l'en parler avec leurs amis. Et donc ça, c'est vrai que pour l'avenir, c'est vraiment important.
Merci beaucoup. Et puis donc, on rappelle, pour avoir plus d'informations, d'aller sur le site du Parc naturel régional du Verdon.
C'est ça. Donc le site internet, c'est parcduverdon.fr. Donc on peut trouver ça assez facilement sur internet. Et puis sinon, on a les réseaux sociaux de Facebook et d'Instagram. Et puis sinon, il ne faut pas hésiter aussi à appeler ou à passer nous voir à Moustier-Sainte-Marie.
Il y a un téléphone ?
Alors, c'est le 04 92 74 68 00. Mais toutes ces informations, elles sont trouvables sur Internet.
Merci beaucoup, Julie-Marie. Et on va se quitter avec la chanson de chauve-souris de Thomas Fersen, qui est toute mignonne.
Merci
Une
beaucoup.
Une chauve-souris amoureuse d'un parapluie. Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, merci.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise.